encore en vie. Aujourd'hui pourtant, même si nous croyons qu'il est trop tard, nous pouvons laisser de côté de tels regrets, car cette personne est toujours en nous et nous pouvons repartir de zéro. Sourions-lui et disons-lui tout ce que nous aurions dû lui dire sans en avoir eu l'occasion. Parlons-lui dès maintenant et elle l'entendra. Parfois, nous n'aurons même rien à formuler, car le simple fait d'incarner pleinement l'esprit d'un nouveau départ permettra à cette personne de sentir ce renouveau. Un jour, j'ai pu expliquer cette pratique à un ancien vétéran américain qui avait tué 5 enfants au Vietnam. Cessez de souffrir à cause des 5 enfants que vous avez tués. Si vous savez comment vivre votre vie aujourd'hui, comment sauver les enfants du présent et du futur, ces 5 enfants parviendront à vous comprendre. Ils vous souriront et vous soutiendront sur votre chemin de pratique. Nous n'avons aucune raison de rester dans la prison de notre complexe de culpabilité. Tout est possible. Le passé n'est pas révolu. Il est toujours disponible sous la forme du présent. Si nous savons comment toucher le présent en profondeur, nous toucherons le passé par la même occasion et pourrons même le transformer. C'est ce que nous enseigne le Bouddha. Si nous avons dit quelque chose de particulièrement méchant à notre grand-mère, alors qu'aujourd'hui, elle n'est plus dans cette vie, nous pouvons effacer nos propos. Nous avons juste à nous asseoir, pratiquer la respiration consciente pour entrer en contact avec notre grand-mère en nous. Nous lui sourions et disons « Grand-mère, je suis désolé. Je ne dirai plus jamais une chose pareille. » Et nous verrons notre grand-mère sourire à son tour. Cette pratique nous apportera beaucoup de paix et nous donnera ainsi une sensation de véritable renouveau. Notre entourage en ressentira énormément de joie et de bonheur, tout comme les générations qui nous suivront. Que faire quand nous avons blessé quelqu'un? Que faire si nous avons blessé d'autres personnes et qu'elles nous considèrent à présent comme leur ennemi? Il peut s'agir de membres de notre famille, de notre communauté ou de personnes vivant à l'étranger. Peu importe. Car je pense que nous connaissons déjà la réponse. Nous savons qu'il y a plusieurs choses que nous pouvons faire. La première est de prendre le temps de dire « Je suis désolé. Je vous ai blessé par ignorance, par manque d'attention. J'ai fait preuve de maladresse. À l'avenir, je ferai de mon mieux pour témoigner de plus de compréhension. Mais maintenant, je préfère ne rien dire d'autre, car je ne voudrais pas vous blesser davantage. » En général, nous n'avons pas l'intention de faire du mal. Mais cela arrive quand nous sommes maladroits ou manquons de pleine conscience. C'est pour cela qu'il est aussi important de cultiver la pleine conscience dans notre vie quotidienne, de façon à pouvoir nous exprimer sans blesser les personnes à qui nous nous adressons. La deuxième chose à faire est d'essayer de faire émerger le meilleur de nous-mêmes, notre fleur, afin de nous transformer. C'est la seule manière d'en témoigner. Lorsque nous serons emplis de fraîcheur et de gentillesse, l'autre personne le remarquera très vite. Ainsi, quand nous aurons l'occasion de l'approcher, nous pourrons venir vers elle comme une fleur et elle remarquera immédiatement que nous avons fortement changé. Il est probable que nous n'aurons même rien à dire et que le simple fait de nous voir ainsi permettra à l'autre personne de nous accepter et de nous pardonner. C'est alors par notre vie que nous nous exprimons, plus uniquement par nos mots. La véritable transformation débute dès que nous commençons à voir que celui que nous percevons comme notre ennemi est en fait en souffrance. Dès que je peux toucher en moi l'espoir profond que l'autre personne cesse de souffrir, c'est mon véritable amour qui se manifeste. Mais c'est là que nous devons faire preuve de vigilance, car il nous arrivera parfois de penser que nous sommes plus forts qu'en réalité. Afin de vérifier la réalité de notre force intérieure, nous pouvons alors approcher l'autre personne, l'écouter et lui parler. Et nous découvrirons immédiatement si notre compassion est réelle ou non. Nous avons besoin de la réalité, d'être en présence de l'autre personne pour tester notre force. Si je me contentais de méditer sur un concept abstrait, comme la compréhension ou l'amour, je risquerais de rester bloqué dans l'imaginaire, sans accéder à la réelle compréhension ou à l'amour véritable. Pour parvenir à faire la paix, nous devons donc abandonner toute vue dualiste et quitter notre tendance à toujours vouloir punir l'autre personne. Même si la réconciliation s'oppose à toute forme d'ambition, elle ne prend jamais aucun parti. Il nous faut pourtant reconnaître que nous cherchons souvent à prendre position dans les conflits, arbitrant entre le vrai et le faux. La plupart du temps, sur la base de preuves insuffisantes ou de rumeurs. Nous pensons que l'indignation est nécessaire pour agir. Or, même quand elle est légitime ou justifiée, elle ne suffira jamais. Notre monde ne manque pas de personnes motivées qui veulent se lancer dans l'action. Pourtant, ce dont nous avons le plus besoin, c'est de personnes qui soient capables d'aimer sans prendre parti et qui puissent ainsi embrasser la pleine réalité de la vie. Nous devons poursuivre notre pratique de pleine conscience et de réconciliation jusqu'à parvenir à percevoir le corps des enfants affamés comme étant le nôtre, jusqu'à ce que la douleur de toutes les espèces soit la nôtre. C'est alors que nous atteindrons la pleine dimension de la non-discrimination, l'amour véritable. Nous pourrons enfin regarder tous les êtres avec les yeux de la compassion et véritablement œuvrer à réduire la souffrance. Qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux? Si nous pratiquons, c'est parce que nous voulons réapprendre à marcher, à respirer, à nous asseoir, à faire en sorte que chacun de nos pas soit empreint de paix et de joie tout au long de notre marche, à respirer de telle façon que paix, vie et compassion soient manifestes. Quand nous prenons notre petit déjeuner, nous mangeons de telle sorte que la liberté et la joie soit possible tout au long du repas. C'est quelque chose que nous apprenons, une pratique à laquelle nous pouvons nous entraîner avec l'aide de la Sangha parmi nos frères et sœurs de pratique. Une seule inspiration peut apporter beaucoup de plaisir et certains, parmi nous, sont capables de respirer en pleine conscience, d'apprécier et de savourer le moment présent. J'inspire. Je suis vivant, vivante. C'est un instant de célébration de la vie qui est là pour nous. Nous savons que nous sommes en vie et que nous pouvons vivre pleinement, célébrer notre vie à chaque instant. J'inspire. Je sais que je suis vivant. J'expire. Je souris à la vie. La pratique est simple et à la portée de tous. Nous pouvons tous inspirer et célébrer la vie avec cette inspiration. Et pourtant, il y a souvent quelque chose qui se met en travers de notre route. Lorsque nous marchons, chacun de nos pas peut nous aider à entrer en contact avec les merveilles de la vie, toutes disponibles pour nous. Nous savons que le printemps est là, le soleil brille, la vie est là et les fleurs nous sourient. En théorie, nous devrions donc tous être capables de toucher ces merveilles pour nous en nourrir, nous guérir. Mais il y a quelque chose qui bloque, qui nous empêche de nous sentir bien et d'être heureux. Nous avons perdu notre sourire. Nous pourrons retrouver ce sourire si chacun de nos pas est profondément en contact avec la vie et ses merveilles. Chaque pas est alors une véritable célébration de la vie. Marchant ainsi, nous marchons en liberté. Je suis libre de la souffrance, de la peur, du désespoir. Cette liberté est le fondement de notre bonheur. Avec chaque pas, nous marchons comme une personne libre. Libérés, nous pouvons être en contact avec les merveilles de la vie qui nourrissent et guérissent. Mais alors, quel est donc cet obstacle sur notre route qui nous empêche de célébrer la vie à chacun de nos pas? Nous devons le reconnaître tel qu'il est et le nommer pour ce qu'il est, par son vrai nom. Qu'est-ce qui m'empêche de marcher, de respirer en pleine conscience, de prendre mon petit déjeuner dans la joie et le bonheur? Nous savons pourtant très bien que l'instant présent est le seul moment où nous pouvons pleinement entrer en contact avec la vie. Le passé n'est plus là. Il ne contient plus la vie. Et le futur n'est pas encore là. Le passé n'est pas réel, pas plus que le futur. Seul le moment présent est réel. La pratique consiste donc à entrer en contact avec le moment présent, à nous rendre pleinement disponibles pour lui, à nous établir dans l'instant. C'est ainsi que nous pourrons toucher la vie et la vivre pleinement. Il nous suffit d'un seul pas, d'une seule respiration, d'une simple tasse de thé, d'un petit déjeuner ou d'un son de la cloche. Et tout cela nous ramène à l'instant présent, de façon à pouvoir vivre notre vie. Nous nous entraînons à marcher de telle manière que chaque pas, chaque inspiration, chaque expiration nous procure du bonheur, nous apporte la vie. Transformer le passé dans l'instant présent. Il est possible que tout semble aller pour le mieux tant que nous sommes en retraite ou dans notre centre de pratique, que nous ne ressentions plus aucun problème. Et pourtant, nous savons que nous retrouverons tous nos soucis dès que nous serons de retour chez nous. Peut-être une difficulté relationnelle avec une personne de notre entourage. Nous avons déjà rencontré de nombreuses difficultés par le passé. Et nous pensons que cette autre personne est un réel problème. Que c'est ce qui nous empêche de respirer ou de contempler les jonquilles ici. Car nous songeons sans cesse au moment où il nous faudra rentrer et revoir cette personne. Nous ne sommes donc pas libres. Nous ne pouvons pas vraiment apprécier notre inspiration, ni notre expiration, car nous n'arrêtons pas d'y penser. Nous ne cessons de replonger dans notre passé, alors que nous pourrions nous établir pleinement dans l'ici et maintenant. La vie n'est nulle part ailleurs qu'ici. Et maintenant. Heureusement, nous avons la pratique. Nous ne devrions donc pas nous inquiéter du moment où nous reverrons cette autre personne. En examinant la situation en profondeur, nous verrons que nous avons la capacité de la gérer, en pratiquant la respiration consciente et en nous établissant dans le moment présent. Nous sommes tout à fait à même de faire face à toutes les situations. C'est un peu comme savoir utiliser le gaz pour cuisiner et l'électricité pour chauffer la maison. Si nous ne connaissons pas suffisamment ces deux énergies, le gaz et l'électricité peuvent nous tuer. Et pourtant, nous en savons déjà bien assez. Nos connaissances peuvent nous protéger de tout danger. Même si nous ne sommes ni experts ni électriciens professionnels, nos connaissances sont suffisantes pour maîtriser l'électricité. Et c'est bien pour cela que nous ne craignons pas de nous électrocuter. Même si nous connaissons les dangers du gaz et de l'électricité, et que nous n'en ignorons pas les risques mortels, nous savons que ce n'est pas leur fonction première. Nous avons appris à les connaître, à les utiliser et à les maîtriser. Inutile donc de nous faire du souci. Ils ne nous font pas peur. Bien au contraire. Tous deux nous sont utiles. Le gaz nous aide à cuisiner, à préparer de bons plats. Et l'électricité nous apporte une aide précieuse sous diverses formes à la maison. C'est exactement pareil en ce qui concerne cette autre personne que nous redoutons. Elle non plus ne veut pas nous faire souffrir. Bien sûr que non. C'est notre propre incapacité à voir notre nature d'inter-être avec elle qui cause notre souffrance. Comme le gaz et l'électricité que nous devons connaître un minimum pour les utiliser sans danger, nous devons apprendre à comprendre l'autre personne. Ainsi, si nous comprenons suffisamment son mode de fonctionnement, il n'y a plus ni danger, ni souffrance. Cette personne n'a aucune intention de nous faire souffrir, ni de nous blesser. Sans doute, s'agit-il plutôt de grandes difficultés et de souffrances qu'elle porte en elle et ne parvient pas à gérer. Elle ne sait simplement pas comment prendre soin d'elle-même. Elle souffre et nous fait souffrir à notre tour. Mais si nous en sommes conscients et connaissons un minimum le fonctionnement de l'autre personne, nous comprendrons de suite qu'il est inutile d'en souffrir. Si elle dit quelque chose de particulièrement désagréable qui nous fait souffrir, c'est un peu comme si nous ouvrions le gaz. Nous connaissons sa nature et nous devons être vigilants. Rien de plus. L'autre personne porte en elle certaines souffrances et elle n'a pas encore appris comment s'y prendre pour pouvoir les traiter. Elle continue donc à en souffrir et à faire souffrir les autres. Mais si son entourage la connaît bien et sait comment l'aborder, il n'y aura plus lieu de souffrir à cause d'elle. Avec cette prise de conscience, nous pouvons même l'aider à diminuer sa propre souffrance. Si elle nous regarde et s'exprime de façon violente, notre compréhension et notre compassion pourront nous en protéger. Nous savons parfaitement bien qu'elle est en souffrance et qu'elle ne sait pas comment s'y prendre. Elle a surtout besoin de compassion et d'aide. Si nous parvenons à comprendre et à percevoir cela, nous nous protégerons automatiquement. Nous ne souffrirons plus de ce qu'elle dit ou fait. Nous pouvons alors nous sentir portés par le désir de faire quelque chose. Non plus réagir, mais répondre de façon à pouvoir l'aider à moins souffrir. Là encore, la compréhension et la compassion nous protègent. Tout comme nous avons appris à connaître les caractéristiques du gaz et de l'électricité pour en éviter les dangers possibles, nous pouvons apprendre à connaître l'autre personne, reconnaissant sa souffrance et le fait qu'elle ne cherche pas à nous blesser. Elle souffre et nous devons l'aider. Maintenant que nous avons acquis cette compréhension et développé notre compassion, nous pouvons être en toute confiance et tout simplement nous dire « Quand je reviendrai vers elle, j'adopterai cette attitude et je ne souffrirai plus. Je trouverai le moyen de l'aider à moins souffrir. » Chacun de nous est suffisamment armé, doté de compassion et de compréhension. Il n'y a plus rien à craindre. Nous sommes des êtres humains libres, et c'est pour cela que le bonheur est possible dans l'instant présent. La fleur a conservé notre sourire, et nous pouvons nous le réapproprier immédiatement et en profiter pleinement. Prenons un moment pour examiner en profondeur notre réalité du moment. Avons-nous un problème, là, maintenant? Arrêtons-nous un instant et observons notre corps, nos sensations, nos perceptions. Avons-nous un problème particulier? Si nous ne constatons aucun problème en ce moment, alors ne nous laissons pas envahir par nos fantômes du passé. Cessons de nous laisser détruire par les projections du futur ou du passé. Ce ne sont que des fantômes. C'est pour cela que nous nous entraînons à être toujours dans le moment présent. C'est notre pratique. C'est notre voie. Celle de la réconciliation. Chapitre 8. Devenir un bodhisattva. Nombreux sont ceux qui, parmi nous, pratiquent la méditation assise pour échapper à la souffrance, parce que cette assise procure tranquillité et relaxation, en aidant aussi à laisser ce monde de misère et de conflit bien loin derrière. Certes, nous préférons éprouver de la joie et du bonheur, et nous nous asseyons dans l'espoir de moins souffrir. Mais, faisant cela, nous nous comportons comme un lapin qui se réfugie dans son terrier, sous terre, pour se sentir protégé. Nous nous asseyons tel un lapin dans son terrier qui ne veut plus être dérangé. Nous cherchons à laisser le monde loin derrière nous. Cette attitude indique simplement que nous souffrons trop et que nous aspirons à du répit, une sorte d'échappatoire. Mais ce n'est pas la véritable finalité de la méditation. Quand nous sommes assis comme un lapin, ce que nous cherchons en réalité, c'est à éviter la souffrance. Mais nous devrions plutôt recourir à notre intelligence et à notre concentration pour parvenir à la vision profonde. Car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons trouver les moyens de transformer notre souffrance intérieure et de devenir un Bouddha, un être éveillé, une personne libre. Le bouddhisme aborde la notion des trois mondes. Le monde du désir, le monde de la forme et le monde de la non-forme. Nous avons tous la capacité de dépasser nos désirs et nos pulsions. Par la pratique, nous pouvons laisser le monde du désir derrière nous et accéder à la joie et au bonheur. C'est la toute première étape de la pratique. Nous constatons pourtant que, même après avoir quitté le domaine des désirs, le discours mental se poursuit. C'est pourquoi nous pratiquons l'arrêt, le retour au calme, afin de mettre un terme à ce discours interne. Le discours mental est constitué de deux éléments, vitarka et vichara. Vitarka étant la pensée initiale et vichara la pensée récurrente, continue. Nous ne pouvons pas nous arrêter de penser. Il y a un enregistrement audio en lecture permanente dans notre tête. Ce bruit est celui du discours mental qui tourne sans arrêt. Et c'est précisément pour apprendre à mettre un terme à ce discours intérieur que le Bouddha nous a enseigné le retour à l'observation de l'inspiration et de l'expiration. Demeurant simplement dans notre inspiration et dans notre expiration, nous pouvons apaiser le mental. En appréciant chaque inspiration et chaque expiration, nous sommes en mesure de stopper les pensées récurrentes. Et c'est là que nous trouverons notre stabilité. Nous pouvons donc simplement nous asseoir là et apprécier chacune de nos inspirations et expirations. Savourer ce calme, l'absence de discours mental, et appréciant alors pleinement tous ces petits moments de joie et de bonheur qui nous sont offerts. En revanche, nous ne pouvons pas en rester là, car cela ne suffirait pas. Si nous ne pratiquons que cela, nous aurons sans doute quitté la communauté de pratique d'ici à 3 ans. Et, hors de la communauté, de retour dans le monde, nous verrons à quel point celui-ci est empli de souffrance. Il est même probable qu'au bout de 3 mois ou d'une année, nous ferons la demande de réintégrer la communauté. Et nous poursuivrons sans doute ce même schéma, continuant à pratiquer de la même façon. Joie et bonheur émergeant du retour au calme, né du simple fait de laisser tout derrière nous. C'est une cloche de pleine conscience qui nous indique que nous devons aller davantage en profondeur. Si nous ne sommes pas heureux dans la pratique, nous imputerons notre malheur à autre chose. Nous disons que si nous ne sommes pas pleinement heureux, c'est à cause des conditions autour de nous, à l'extérieur, que nous n'y sommes pour rien. C'est une difficulté que rencontrent toutes les communautés de pratique. À l'inverse, si nous connaissons ce problème, nous pourrons construire notre communauté de telle sorte que chacun puisse prendre conscience du fait que s'il n'est pas heureux, c'est parce qu'il ne sait pas comment préserver son propre bonheur. Le problème est que bien souvent, nous ne savons pas comment aller en profondeur pour transformer la douleur et l'anxiété. Toute cette immense souffrance qui séjourne en permanence dans notre conscience du tréfonds. Or, celle-ci provient généralement de notre enfance. Nous avons peut-être subi une certaine forme d'abus quand nous étions encore enfants. Il se peut aussi que notre souffrance soit celle de notre père ou de notre mère. Ils ont peut-être connu la maltraitance durant l'enfance, et maintenant, leur souffrance est devenue la nôtre. Même si nous n'avons qu'une très vague perception de notre blessure, nous devons pratiquer pour entrer en contact avec elle, de façon à pouvoir utiliser notre vision profonde et la reconnaître. Et s'il nous faut souffrir, alors nous pouvons nous encourager. J'accepte de souffrir, parce que je sais qu'en ressentant la douleur de cette façon, je pourrai apprendre et ensuite obtenir de bonnes choses. C'est un peu comme si nous mangions du melon amer. Puisque nous savons qu'il peut nous soigner, nous ne craignons pas du tout d'en consommer. si votre souffrance émerge. Il est donc essentiel que vous restiez là où vous êtes, pour simplement l'accueillir. Qu'il s'agisse de votre colère, de votre frustration, ou de votre ardent désir d'obtenir quelque chose que vous n'avez pas. Et même si ce bloc de souffrance n'a pas de nom, que vous ne pouvez pas encore le nommer, c'est toujours de la souffrance. Soyez alors prêt à simplement lui dire bonjour, à l'accueillir et l'embrasser tendrement. Apprenons à apprivoiser notre douleur et à vivre pleinement avec elle. Dès le moment où je peux accepter totalement ma blessure et où je suis prêt à la sentir, elle ne pourra plus m'affecter. Je sentirai que je suis tout à fait capable d'apprivoiser ma souffrance et de vivre avec elle, parce que son effort est bénéfique et, comme le melon amer, elle peut même me guérir. Permettons donc à la souffrance d'être en nous. Acceptons-la totalement. Sentons-nous prêts à souffrir un petit peu pour apprendre ce qu'elle peut nous enseigner. À l'inverse, si nous n'accueillons pas cette souffrance et ne lui offrons pas notre tendresse, nous ne saurons pas de quoi il s'agit. Et nous ne saurons pas qu'elle peut nous apprendre tant de choses, et même